Professeur Michel Benoît, bonjour, merci de nous recevoir. Je vais vous demander de vous présenter.
Oui, bonjour. Donc je suis professeur de psychiatrie et chef de service au CHU de Nice, chef de pôle maintenant. Et je suis co-responsable du Centre Régional Psychotraumatisme PACA Corse avec ma collègue, le professeur Florence Askenazi.
Je vais vous demander, alors qu'on approche du procès de l'attentat de Nice qui aura lieu en septembre, qu'est-ce que vous conseillez aux personnes exposées, aux rescapées ou endeuillées après l'attentat et justement à l'approche de ce procès ?
Comme ça a déjà été décrit, en fait, il faut comprendre qu'il y a plusieurs catégories de personnes et je crois qu'il est difficile d'avoir un conseil unanime pour tout le monde. Le premier, c'est bien sûr, on est nous en premier vigilants par rapport aux personnes qui sont suivies, qui ont été suivies ou qui sont, on va dire, dans notre file active des personnes suivies après l'attentat. Et on va être particulièrement vigilants chez ces personnes qui d'ailleurs, sans même qu'on ait besoin de leur dire, vont dire « Ah, il y a le procès qui va venir ». Elles vont en reparler spontanément. Ça, c'est quand même une première catégorie. Il y a une catégorie de personnes qui a été exposée, qui a pu être suivie ou pas suivie et qui a mis finalement tout cela dans la mémoire. D'autres diraient sous le tapis parce que ça va faire 6 ans que ce drame est arrivé. Les médias vont beaucoup en parler. On va leur dire attention, ne restez pas silencieux. C'est un moment qui peut être difficile, c'est un moment qui est souvent déstabilisant. Et évidemment, venez en parler, c'est-à-dire les amener à reprendre contact. Mais en général, les personnes vont reprendre contact parce qu'elles éprouvent une détresse. Elles ne vont pas venir spontanément parce qu'on leur dit « venez, parlez si vous en ressentez le besoin ». En général, elles viennent parce qu'elles éprouvent une détresse et que, on le sait bien, ça a été souvent décrit, la réévocation des faits, la recherche de la cause, de la culpabilité, la sentence attendue pour les personnes impliquées va faire renaître. D'une part, il y a le cortège de la reviviscence. Ils revoient, ils vont se replonger, bien sûr, dans cette nuit tragique, les jours et les mois qui ont suivi pour certains. Et puis, évidemment, les sentiments de révolte, de colère, de demande de justice, de demande de réparation. Mais généralement, finalement, les personnes qui ont déjà été suivies ou vont venir spontanément et vont rechercher de l'aide si vraiment elles en ressentent une détresse, un besoin. Et puis, il y a une catégorie de personnes qui n'a peut-être pas été suivie, qui n'a pas été dépistée et qui va peut-être attendre du procès beaucoup plus que le procès ne va pouvoir leur apporter.
Vous voulez dire que ces personnes qui n'ont pas été suivies n'ont pas pu revenir mettre du sens dans ce qui leur est arrivé ? Et donc, est-ce qu'elles sont plus à risque, entre guillemets, d'avoir un effondrement psy ou à ce moment-là, parce qu'il n'y a pas eu de suivi avant, parce qu'elles n'ont pas été prises en charge, ou en tout cas, elles n'ont pas trouvé la nécessité d'être prises en charge auparavant?
C'est notre hypothèse et on le démontre. On démontre que les personnes qui sont suivies, qui sont accompagnées, d'une manière générale, s'en tirent mieux et arrivent à faire leur travail du trauma et à donner du sens. C'est l'objectif ultime, trouver une résilience par rapport à ce qu'elles ont vécu et faire de cet événement quelque chose qui leur a été propre, qui fait partie de leur histoire, mais qui est dans un continuum qu'on va essayer, bien entendu, de modifier. La catégorie des personnes qui n'a pas été suivie, a essayé de gérer pas toujours efficacement l'impact du trauma qu'elles ont eu, peuvent se retrouver en difficulté, attendre beaucoup trop de choses. Et c'est notre rôle de dire, le procès, oui, c'est une étape, mais c'est pas ça qui résout le trauma. Le procès, avant tout, il a une portée collective. Il est là pour affirmer que la justice va être rendue de manière collective et pour affirmer à la société que cet acte effroyable, avec de nombreux protagonistes, ne peut pas rester impuni. Et voilà. Mais il ne faut pas confondre la portée collective et puis ce que ça va représenter au niveau individuel. Qu'est-ce qu'une condamnation va apporter à un individu dans sa vie personnelle ? Peu de choses. Sauf s'il croit que, absolument, cette réparation va être l'étape thérapeutique nécessaire et ultime de son trauma, ce qui est très très improbable.
Alors, on a des personnes qui sont donc, que vous dites, qui ont été aussi prises en charge, d'autres qui n'ont pas été. Dans tous les cas, pour certaines, on sait qu'un trouble du stress post-traumatique peut être gelé, ou en tout cas en léthargie, et donc il peut se déclencher aussi à faveur du procès. Quels sont les signes qui doivent alerter une personne à ce moment-là ?
Dans les signes d'alerte, on pense bien sûr aux signes qui font partie du cortège psychotraumatique classique. La personne se met à revivre des choses, se met un peu trop à en reparler, se met un peu trop à ressortir des papiers ou des photos ou des articles de journaux sur l'histoire, se met à regarder un peu trop, bien sûr, les médias qui vont passer en boucle tous ces événements, des symptômes un peu plus d'évitement. Après autant de temps, après 6 ans, on sait bien que la clinique psychotraumatique, elle évolue. On sait bien qu'au début, il va y avoir beaucoup d'évitement, il va y avoir beaucoup d'hypervigilance, il va y avoir pas mal de reviviscence. Et puis, ces dimensions vont évoluer. Et souvent, ce qu'on observe après plusieurs années d'un trauma aussi sévère, c'est une majoration du quatrième groupe des symptômes, c'est-à-dire cette vision négative de l'environnement, cette vision d'injustice de la société. C'est un retrait social finalement assez inapproprié par un sentiment négatif de l'environnement. C'est un peu moins les symptômes de reviviscence très active, même s'ils peuvent ressurgir encore bien après. On le voit chez des professionnels, par exemple, qu'on peut être amené à revoir dans des procédures de réparation. Dès qu'on leur en parle, tout se passe comme si on remettait un jeton dans une machine à penser et à revivre. Et le problème du traumatisé, c'est qu'il revit les choses avec ses sens. Il faut être vigilant, donc des signes d'instabilité, des signes de moindre efficacité, des signes de repli. Donc, c'est des signes, finalement, assez peu spécifiques du trauma, qui doivent attirer l'attention, mais quelque part, un changement de comportement et un changement d'humeur et de vision du monde. Il y a des personnes qui vont être très captivées par ces images des procès, comme s'ils se replongeaient de manière quasi involontaire dans quelque chose, un peu comme dans une transe hypnotique. Et c'est vrai que souvent, ces images en boucle incitent à cela. Puis, il y a des personnes qui vont zapper, qui vont regarder, puis qui vont dire, je veux pas y penser, je veux pas comment on parle, mais qui vont quand même y penser. C'est-à-dire qu'ils vont, c'est ce qu'on peut leur conseiller, se prévenir d'une surexposition aux différents attendus du jugement et de la procédure pénale, en parler quand même, pas être dans l'illusion. Il est tout à fait normal qu'une personne qui a vécu un traumatisme ou direct ou indirect ou vicariant, avec ou pas menace de mort, etc., c'est tout à fait normal qu'il y repense à ce moment-là, ce serait très étrange. On ne sait pas effacer la mémoire. Par contre, on peut lui donner du sens. On doit permettre au sujet de l'exprimer avec des personnes neutres, bienveillantes, qui vont l'aider à mettre du sens à cet événement et éviter finalement le risque de réapparition des symptômes de reviviscence.
Concrètement, comment elles peuvent prendre soin d'elles pendant la durée du procès ? S'entourer, se mettre...
D'une manière générale, on sait que l'isolement est propice à la rumination. Trouver des solutions, parfois inappropriées. Les prises d'alcool, l'excès de tabac. Le psychotrauma, c'est quelqu'un qui est dans une trajectoire de vie qui est brusquement fracturée, en fonction, bien sûr, de l'intensité du trauma et de son degré d'implication.
Est-ce que ça fait une déviation, en fait, dans un parcours de vie ?
Une déviation ou une pause. Et il y a encore beaucoup de gens qui sont en pause, qui n'ont pas retrouvé un parcours de vie. On peut dire que, quand même, la thérapie du trauma, en fin de compte, c'est aider la personne à intégrer cette chose qui n'aurait pas dû arriver et continuer à dérouler effectivement sa vie différemment. Il est illusoire de dire « vous inquiétez pas, ça va passer, tout va revenir comme avant ». C'est pas vrai. Et enfin, ça demande beaucoup de temps et beaucoup de maturité et beaucoup de travail probablement psychologique, c'est arriver à peut-être à dire un jour « j'aurais pas voulu vivre cela, mais ce trauma m'a permis de changer et j'en fais quelque chose ». On le constate souvent, par exemple, chez des professionnels qui ont été confrontés à un traumatisme dans le cadre de leur profession et qui font une reconversion. Et qui font de cette reconversion un élément positif.
Et le fait d'être victime d'un attentat, est-ce que ça va colorer différemment le trouble du stress post-traumatique, mais aussi le parcours de reconstruction ? Parce qu'un attentat, il y a un côté collectif, mais il y a aussi une intention...
L'intentionnalité humaine, voilà. Bien sûr. L'attentat, c'est une attaque gratuite. Il y a la violence... Il y a la soudaineté et puis la barbarie. On n'est pas du tout préparé à quelque chose d'aussi atroce, insensé et inconcevable. Ça pose la question, comment répondre à l'absurde ?
Dans le cadre de l'attentat de Nice, sont des familles, des groupes de proches qui ont été visés et qui ont été impactés ensemble. Aujourd'hui, comment ces noyaux familiaux ou amicaux peuvent-ils se soutenir ?
Ce qu'on a constaté, il y a plusieurs étapes. Il y a ce temps vraiment nécessaire de souffrance ensemble, partagé, où il y a du soutien mutuel. Et puis, il y a souvent une étape où les personnes ont moins envie de se voir ou ont moins envie d'en parler, surtout. Il y a ceux qui ont besoin d'en parler, qui ont besoin d'être reconnus, qui ont besoin de trouver de l'aide. Et puis, il y a ceux qui disent, bon, mais là, maintenant, je ne veux plus qu'on en parle. Et qui, parfois même, ne vont pas trop chercher à revoir ou voir aussi fréquemment les personnes qui sont proches. On le voit chez des professionnels, qui soient policiers, pompiers, militaires, qui ne veulent plus voir les anciens collègues. Ça rappelle un peu trop parce que le travail n'a pas été fait ou n'a pas pu se faire dans des conditions adéquates. Donc la particularité de l'attentat de Nice, l'une des particularités, c'est qu'il a véritablement touché des groupes familiaux, des groupes amicaux. C'est vraiment important que le corps familial, le corps social, le corps amical, il reste là intact parce que c'est des personnes, oui, qui ont partagé les mêmes choses, qui n'ont pas forcément besoin de le dire pour le ressentir. Mmh. On voit souvent des groupes se reconstruire. Il y a eu des séparations, des divorces, des amis qui ne sont plus vus. Parce qu'ils avaient... Alors là, c'est probablement par un mouvement de tourner la page. L'objectif, c'est de, comme je le disais juste avant, c'est reprendre sa vie avec ses amis et d'autres, bien évidemment. Mais que cet événement ne soit pas le point de fracture sociale et familiale qui empêche une reprise des relations telles qu'on les concevait.
C'est comme disait Françoise Rosetsky, qu'il n'y ait pas de double ou de triple peine.
Exactement. Je reviens à ce que je disais un petit peu avant. Peut-il y avoir une justice après quelque chose d'aussi abominable? Peut-il y avoir une justice? Il faut qu'il y ait une justice parce qu'elle est le ciment de notre corps social, elle est le ciment de notre sécurité, elle est la reconnaissance nationale face à quelque chose d'aussi ignoble. Mais peut-on véritablement trouver une peine à la hauteur de la situation? Aucune peine ne peut finalement réparer. La seule chose qui pourrait un peu réparer, c'est un peu de repentir. Une reconnaissance de l'ignominie, de ce qui a été commis, qui ne réparera pas, mais qui donne du sens, quelque part, au caractère affreux de ce qui a été commis.
Professeur Michel Benoît, merci beaucoup.
Merci à vous.